Soir, j'aimerais partager un thème, et ce thème fait partie des réalités, malheureusement, que nous avons en commun, que nous avons tous en commun. C'est les épreuves par lesquelles nous devons passer. Et ce soir, j'aimerais tout simplement avoir avec vous, que nous puissions nous encourager mutuellement vers une nouvelle perspective biblique de la manière dont nous devons persévérer au milieu des épreuves. Les épreuves, comme je l'ai dit, sont le lot commun de chacun de nous. Ce sont des épreuves de différentes natures. Mon épreuve n'est peut-être pas la tienne et ton épreuve n'est pas la mienne ce soir. Peut-être que tu vis une épreuve au niveau de ta santé. Peut-être que tu vis une épreuve au niveau professionnel, au niveau familial. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, j'aimerais que nous puissions nous encourager mutuellement au travers de la parole de Dieu, que Dieu est à nos côtés. Et vous savez, lorsque nous sommes au milieu des épreuves, et comme l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre chapitre 4, vous pourrez lire ça à la maison, Pierre parle de l'épreuve comme étant une fournaise. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans une épreuve, on a chaud. Il fait chaud. C'est chaud, comme diraient les jeunes. Et nous avons vraiment besoin de l'appui de Dieu pour traverser cette épreuve. Mais vous savez, bien souvent lorsque nous prions et que nous cherchons la face de Dieu pour que Dieu nous réponde, nous sommes déçus par la réponse de Dieu, certaines fois. Parce que la réponse de Dieu peut être la suivante. Mon fils, ma fille, persévère dans la foi. C'est une réponse que des fois nous avons du mal à comprendre. Seigneur, je suis dans la galère. Pourquoi tu n'interviens pas plus rapidement? Ma fille, mon fils, persévère dans la foi. Seigneur, tu vois, je suis au chômage, tu vois cette maladie, tu vois ce problème au niveau familial qui dure depuis des années. Et la réponse de Dieu, jusqu'à présent dans ta vie, peut-être dans la mienne aussi par rapport à l'épreuve que je vis, c'est mon fils, ma fille, persévère dans la foi. C'est une réponse que nous avons des fois du mal à accepter. Mais pour nous encourager ce soir, pour avoir une nouvelle perspective, une perspective biblique de la manière dont nous devons persévérer dans l'épreuve, j'aimerais que nous puissions méditer ce soir. Je ne serai sans doute pas très long, mais je souhaiterais que ce soit vraiment un partage, quelque chose que, à l'issue de ce culte, que nous puissions repartir avec vraiment quelque chose qui va nous aider, chacun de nous, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, à faire face aux épreuves. Et pour cela, je souhaiterais méditer avec vous le parabole dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 18, nous allons lire les 8 premiers versets. Dans Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Le décor est planté dès le premier verset. Le premier verset de Luc chapitre 18 nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. » Jésus, au travers de cette parabole, voulait encourager ses disciples à persévérer dans la prière. Et dans cette parabole, il y a deux personnages et tous deux sont clés. Vous avez d'un côté un juge dont la fonction primaire est de rendre justice, mais on voit que c'est un juge dont le dernier des soucis est de rendre justice. C'est un juge inique, un juge injuste, qui n'a d'égard pour personne d'ailleurs. Puis de l'autre, vous avez une femme, qui plus est veuve, parce que la condition des femmes, pardonnez-moi mesdames ce soir, même si il y a un mouvement de féminisme en 2019, mais la condition des femmes à cette époque était bien plus terrible et de loin que ce que les femmes vivent aujourd'hui. Et cette condition féminine était d'autant plus terrible que vous étiez veuve. Et cette femme était veuve parce qu'à l'époque, la femme dépendait absolument, totalement de son mari pour vivre au quotidien. Et cette femme, veuve, vient voir le juge. Elle n'a aucun moyen de pression pour faire changer, pour influencer la décision du juge. Alors Jésus, dans cette parabole, ne dévoile pas quel est le contentieux qui oppose cette veuve à sa partie adverse. Mais on peut supposer quelque chose. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, les veuves étaient très peu considérées à cette époque. Elles avaient très peu de droits. Et on peut supposer que si elle vient voir le juge, si elle vient insister auprès du juge, c'est que sans doute elle était dans son bon droit. Alors cette histoire paraît toute simple finalement. On a d'un côté un juge, injuste, inique, et puis de l'autre, une veuve qui, à force d'insister auprès du juge, elle ne se décourage pas, elle vient, elle dit « voilà, je veux que tu me rendes justice », et puis finalement, le juge va céder. Mais ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que cette femme vivait une injustice. Et chacun d'entre nous, ce soir, nous pouvons des fois passer par des injustices dans nos vies, des persécutions, des épreuves. Nous sommes honnêtes, nous sommes droits, et voilà qu'en retour, nous n'avons que de la haine, nous n'avons que des calomnies. Je suis un mari, je cherche à être un bon mari, et pourtant, ma femme me laisse. Je cherche à être un bon père, une bonne mère, à éduquer mes enfants comme il le faut. Pourtant, mes enfants se détournent petit à petit de la voie que je veux leur enseigner. Je veux être un bon collègue, un bon employé. Et sur mon lieu professionnel, sur mon lieu de travail, je n'ai en retour que des calomnies, que des coups bas. Et la liste peut être longue. Vous avez chacun d'entre vous, peut-être ce soir, des épreuves par lesquelles vous traversez. Mais ce vers quoi je veux vous conduire ce soir, c'est que quelle que soit la nature de votre épreuve, Dieu est à vos côtés. Jésus est à vos côtés. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est une promesse certaine. Alors me direz-vous, « Tu es bien gentil, Jean-Mathias. Jésus est avec moi, Dieu est avec moi, très bien. Mais pourquoi il n'intervient pas plus tôt ? Pourquoi il n'intervient pas plus tôt dans l'épreuve que je vis depuis tant de mois, tant d'années ?» Et c'est là que je veux partager avec vous une perspective biblique de l'attente, la manière dont nous devons persévérer dans les épreuves. Je ne sais pas combien dure l'épreuve que tu traverses, peut-être quelques jours, peut-être des semaines, peut-être des mois, pour certains d'entre vous, peut-être des années. Mais j'aimerais partager avec vous trois clés spirituelles pour vous encourager ce soir, quelle que soit l'épreuve que vous traversez. Et je m'y inclus volontairement, parce que je ne suis pas exempt de cela. Moi aussi, je traverse par des épreuves, pas parce qu'on a le privilège d'apporter la parole de Dieu qu'on est exempt d'épreuves. Chacun de nous, nous traversons par des épreuves. Et j'aimerais ce soir donc partager trois clés spirituelles, une nouvelle perspective biblique. La première clé spirituelle, elle est la suivante, c'est que Dieu, lorsque Dieu ne nous répond pas, c'est que Dieu veut nous voir grandir dans la foi et il veut nous rendre plus forts spirituellement. Première clé. Vous savez, les persécutions, les épreuves sont parfois des périodes de test que Dieu permet dans nos vies pour nous fortifier. Vous savez, on raconte l'histoire d'un jeune citadin, un cadre, qui a fait de brillantes études, qui travaillait un col blanc, donc qui travaillait dans des bureaux, dans une grande ville. Et puis, il a voulu un jour changer totalement de vie professionnelle. Il s'est dit, je vais devenir fermier. Il a donc récupéré la ferme de ses grands-parents. Et puis, il a acheté plusieurs poules parce que son désir et son souhait depuis son plus jeune âge, c'était d'élever des poules. Lorsqu'il s'est installé dans cette ferme, à la ferme de ses grands-parents, il s'est dit, mais moi, je vais prendre soin de mes poules, mais aussi de mes poussins. Et à la première ponte, ce que je vais faire, je vais aider les poussins. Lorsque les poussins vont commencer à s'éclore, je vais les aider pendant la période d'éclosion. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a acheté des poules pondeuses et lors de la première ponte, donc au début de l'éclosion, il a aidé les poussins à sortir. Il était content, tout fier de lui parce qu'il s'est dit, comme ça, ils vont moins forcer, ils seront en meilleure forme. Mal lui en a pris. Au bout de 3 jours, tous les poussins qu'il avait aidés pendant cette phase d'éclosion, tous les poussins ont perdu la vie. Alors, il était étonné, il ne comprenait pas, il avait très peu d'expérience. Il a été voir un collègue fermier à quelques kilomètres de chez lui. Il a expliqué son histoire. Il a dit, mais moi pourtant, je voulais les aider. Et puis, je ne comprends pas. 3 jours après, ils sont tous morts. L'autre fermier lui a dit, mais mon cher ami, c'est normal. Ils doivent justement déployer beaucoup d'énergie. Ils doivent, c'est normal, c'est naturel qu'ils déploient autant d'efforts pour sortir. Et ce sont ces efforts-là, c'est cette force qu'ils déploient qui vont les permettre de survivre. Et de même pour nous, chrétiens, de temps en temps, parfois, nous passons par des épreuves. C'est parce que Dieu veut nous rendre plus forts spirituellement. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et lorsque je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à des grands hommes de Dieu. Pensez à Élie, le prophète Élie, grand prophète. Pensez-vous qu'il aurait été ce si grand prophète s'il n'avait pas été pourchassé, persécuté par Achab et sa femme Jézabel? Prenez également David, le grand roi David. Aurait-il été un grand roi s'il n'avait pas été face au géant Goliath? David aurait-il été le David qu'on connaît aujourd'hui dans la Bible s'il n'avait pas été persécuté par Saül, pourchassé avec ses milliers de soldats dans le désert et dans des cavernes? Mes frères et sœurs, des fois nous passons par des épreuves parce que le Seigneur veut nous fortifier. Le Seigneur veut nous rendre plus forts. Il veut nous faire grandir dans la foi. Et comme l'élève qui passe par un examen pour pouvoir aller au niveau supérieur, Dieu teste notre foi. Dieu teste notre foi. Il y a un passage dans la Bible où Dieu a testé une femme. C'est cette femme cananéenne dans Matthieu 15. On va lire le passage avec vous. Matthieu 15, la Bible dit ceci. Matthieu 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Je m'arrête là. Voici une femme qui a une fille qui est tourmentée par le démon. Pour resituer le contexte, il y a les disciples autour de Jésus, mais il y a d'autres personnes autour de Jésus. Cette femme vient voir Jésus et cherche du secours. Verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. » Jésus ne répond pas à la femme. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Premier test, le test du rejet. Voilà une femme qui vient avec des motifs tout à fait louables. Sa fille est tourmentée par un démon et vient voir celui qui peut sauver sa fille et pourtant elle se fait rejeter. Verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui disant, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Deuxième test, le test de l'humiliation. Elle est rejetée. Il dit, « Non, mais toi, tu ne fais pas partie des enfants d'Israël. La grâce, le salut n'est pas pour toi. » Mais elle s'accroche, elle se prosterne devant Jésus. Elle l'adore. Puis deuxième test, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous savez qu'en Palestine, à ce moment-là, le chien, c'est quand même l'animal le plus méprisable. Le chien, c'est celui qui mange les cadavres. Et là, Jésus lui dit, n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais la femme va passer encore ce deuxième test parce qu'elle va dire au verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà, cette femme a passé 2 tests. Test du rejet, test de l'humiliation. Je ne sais pas quel est le test par lequel tu passes ce soir. Peut-être que tu t'es fait rejeter par ta famille, par quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es une personne humiliée depuis ton enfance, pour qui tu es. Mais garde courage. Dieu teste ta foi et au bout du compte, il veut te libérer. Et dans cette histoire, ce qui est frappant, c'est que cette femme, dont la fille est tourmentée par un démon, elle vient voir Jésus parce qu'elle sait qu'il n'y a que Jésus à ce moment-là qui peut délivrer sa fille. Et vous savez, lorsqu'on passe des tests, comme lorsqu'on passe un examen, Dieu attend de nous que nous lui fassions totalement confiance. Cette femme a remis la situation totalement entre les mains de Jésus. Et une confiance totale à tel point que nous reconnaissions qu'il n'y a que Dieu qui est notre recours. Si je reviens à notre histoire, cette femme, cette veuve, face à ce juge inique, comme je l'ai dit, cette veuve avait un statut social très, 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 très bas. Elle n'avait ni les moyens financiers, ni les relations sociales pour pouvoir influencer le juge. Elle n'avait pas de l'argent pour verser des pots de vin au juge pour que le juge puisse répondre plus rapidement à sa requête. Elle n'avait pas non plus le niveau d'influence dans la société pour faire quoi que ce soit d'autre que venir au pied du juge et le supplier. Et moi, je crois fermement que si Jésus prend à dessein dans cette parabole l'exemple de cette veuve qui n'a rien et qui sait que son seul espoir, c'est de venir au pied du juge, c'est parce que Jésus veut attirer l'attention des disciples et Jésus veut attirer notre attention ce soir. Que vraiment la foi à laquelle Dieu nous appelle, c'est celle qui s'exerce lorsque nous reconnaissons que Dieu est notre seul secours. Celle qui s'exerce lorsque nous reconnaissons que Dieu est notre seul recours. Et ce, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Combien de fois nous prions, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, tu vois l'épreuve, tu vois la tribulation, tu vois la persécution, tu vois un tel qui me persécute au travail, un tel qui me persécute dans ma famille. Et puis une fois qu'on a fini de prier, on essaie de faire les choses par nous-mêmes, de régler les choses par nous-mêmes. Et moi, je veux, tous les jours dans ma vie, je veux avoir cette attitude qu'a eu David. Vous savez, David, comme je le disais, il a été pourchassé par Saül. À un moment donné, dans 1 Samuel chapitre 24, David va être dans une caverne. Il y a des personnes qui vont venir dire à Saül que David se trouve dans tel désert. Saül va prendre à peu près 3000 soldats, partir à la poursuite de David. Saül va arriver devant la caverne où se trouvait David. Saül va rentrer pour faire un besoin naturel. À ce moment-là, David est à côté de Saül. Les hommes qui étaient avec David, ses compagnons lui disent « Mais David, c'est ton moment. Tu peux l'attaquer, tu peux le tuer. » Mais David va dire « Non, je ne vais pas tuer cet homme-là. Parce que je sais que le Seigneur, c'est lui, à lui la vengeance, à lui la rétribution. » Que chaque jour nous puissions avoir, mes frères et sœurs, cette attitude. Et j'aimerais partager avec vous un témoignage personnel au niveau professionnel. C'est vrai que lorsque vous êtes différent culturellement, et même lorsque vous êtes différent également au niveau de vos valeurs spirituelles, et que vous évoluez dans un monde qui est le monde dans lequel j'évolue professionnellement, vous avez des attaques, vous avez des calomnies, vous avez toutes sortes de choses qui vous arrivent. Et ce serait tellement long de vous expliquer cela en détail. Mais là où je veux en venir, c'est que de par la position que j'occupe dans mon entreprise, j'ai un certain niveau d'influence qui pourrait faire que je pourrais me venger. Je pourrais utiliser ma position, mon influence pour me venger vis-à-vis de certains collègues qui m'ont fait du mal. Et certains ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi je ne le fais pas. Mais je m'abstiens de le faire. Parce que je sais que, quelle que soit l'épreuve par laquelle je traverse, je veux que ce soit le Seigneur qui m'en libère. Je ne veux pas que ce soit moi qui prenne les choses par moi-même parce que la foi à laquelle Dieu prend plaisir, c'est la foi qui s'exerce lorsque nous reconnaissons que notre seul recours, notre seul secours nous vient de l'Éternel et non pas de nous-mêmes. Première clé, mes frères et sœurs, première clé spirituelle, lorsque Dieu ne nous répond pas, lorsque nous nous posons la question « Mais pourquoi Seigneur, pourquoi je suis là en train de te prier comme cette veuve au pied du juge, pourquoi tu ne réponds pas ?» C'est peut-être parce que le Seigneur veut te fortifier. Il veut te faire grandir dans la foi et te rendre plus fort spirituellement. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, et nous le voyons, nous allons le voir toujours dans la parabole que nous avons lue, c'est que Dieu aime aussi, et je souligne le « aussi », Dieu aime aussi nos persécuteurs. Je ne sais pas par quelle persécution tu es ce soir, mais sache que Dieu aime aussi tes ennemis. Et il veut des fois leur laisser le temps de se repentir. Dieu aime nos persécuteurs. Dans Luc chapitre 18, il est dit au verset 7, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ?» Pour bien comprendre, en fait, là où je veux en venir avec vous, je vais faire un petit peu de théologie, puisqu'en fait, le « tardera-t-il », le terme grec qui a été traduit par « tardera-t-il », ce terme grec, c'est « makrotouméo », dont la racine est « makros », et « makros », c'est quelque chose qui dure longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français à l'origine, elle a été écrite soit en hébreu ou en grec, et nous avons différentes traductions. Dans la traduction Louis II, qui est affichée, que nous avons communément, il est dit « et tardera-t-il à leur égard ?» Lorsque nous prenons une autre traduction, qui est celle de Darby, il est dit la chose suivante, le même verset, « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Il a une nouvelle information. Parce que là, Darby traduit « et il use de patience avant d'intervenir pour eux. » Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu use de patience avant d'intervenir pour eux, c'est-à-dire avant d'intervenir pour ses élus? Et là, j'ai été voir une autre traduction du même verset, qui est la version Osterwald, et là, nous avons la réponse. Pourquoi Dieu use de patience? Dans cette version de ce verset, il est dit « Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il diffère sa vengeance ?» Dieu diffère sa vengeance parce qu'il veut laisser le temps à nos ennemis. Il veut laisser le temps à nos ennemis de se repentir. Vous savez, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris cette vérité spirituelle-là, on se comporte différemment par rapport à nos ennemis. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus va dire à un moment donné à ses disciples, « Priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. » J'ai une anecdote qui est véridique. C'est un pasteur qui officiait dans une église qui était en campagne. Il avait, parce que c'était une toute petite église, donc il n'avait pas les moyens de le payer, donc d'avoir un salaire mensuel pour s'occuper de sa famille. Et ce pasteur, du coup, cultivé un champ. Et ce champ, les produits du champ, lui étaient utiles non seulement pour lui-même et pour sa famille, mais les produits du champ étaient également utiles pour les personnes du village qui n'avaient pas de quoi manger. La première récolte était très bien. Il a pu utiliser les fruits de la récolte pour ses enfants, pour les personnes dans le besoin, dans le village. Et la deuxième récolte, un soir, quelqu'un est venu, a tout volé. Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Le lendemain, lorsque le pasteur est arrivé dans ce champ, il ne voyait plus rien. Et donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une année de récolte totalement disparue. C'est-à-dire qu'une année où ce pasteur allait apprendre à se débrouiller sans rien, parce que l'Église n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Au bout de quelques mois, une personne qui est venue voir ce pasteur pour lui dire « Cher pasteur, nous savons qui a fait ça. Ce que nous te proposons, c'est de le dénoncer aux autorités. Nous savons qui a fait ça. » Alors le pasteur a longuement prié, savoir chercher la direction de Dieu, et Dieu lui a inspiré la chose suivante. Il a replanté, il a semé, et donc la récolte suivante, avant que cet homme revienne commettre un nouveau larcin, il l'a appelé. Il savait qui c'était. Il l'a appelé, donc cet homme est venu, donc il a dit ben, « Merci d'avoir répondu à mon invitation. Écoute, je voulais te voir parce que je voulais te faire un cadeau aujourd'hui. » Et l'homme, surpris, dit « Mais quel cadeau, pasteur ?»« Ben, tes enfants, comment ils vont ?»« Ben, ils vont bien, pasteur, pourquoi vous me posez cette question ?»« Non, mais je voulais vous offrir la récolte de cette année. »« Ah bon ?» Et l'homme, très étonné, lui dit « Mais pasteur, pourquoi ?»« Parce que je veux que vous preniez la récolte, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. » L'homme surpris commença à pleurer, il a avoué sa faute et il s'est converti. Alors vous savez que vraiment le Seigneur souhaite laisser le temps à nos persécuteurs. Alors là, c'est l'histoire d'un champ, c'est une histoire véridique, mais c'est l'histoire d'un champ. Mais je ne sais pas quelle est votre persécution ce soir. Je ne sais pas qui vous persécute. Est-ce quelqu'un de votre famille? Est-ce quelqu'un dans votre voisinage? Est-ce quelqu'un au niveau, dans votre travail? Priez, priez pour lui. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas que tous les chrétiens soient sauvés. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. D'ailleurs, c'est ce que disait l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que quoi ? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même nos persécuteurs, même nos ennemis. Cela peut nous surprendre, mais l'amour de Dieu est si grand qu'il veut aussi laisser le temps à nos ennemis de pouvoir se repentir. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que disait Jésus à ses disciples dans Matthieu 5. Donc oui, mes frères et sœurs, lorsque des fois nous supplions Dieu, lorsque nous traversons une épreuve, Dieu veut nous voir grandir dans la foi, il veut nous fortifier spirituellement. Mais face à certaines persécutions, il veut, et nous devons le comprendre ce soir, bibliquement, il veut que nos persécuteurs aient aussi l'occasion de se repentir, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Troisième et dernière clé spirituelle, pourquoi Dieu ne me répond pas ? Dieu, je te prie. Je te prie, tu vois cette épreuve. Je viens comme cette veuve, instamment, chaque jour, te supplier. Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu ne réponds pas par rapport à cette maladie ? Pourquoi tu ne réponds pas par rapport à cet enfant qui ne veut pas revenir à la maison ? Pourquoi tu ne réponds pas par rapport à mon couple, à mon foyer, qui est en train de partir en lambeaux ? Troisième clé spirituelle, parce que Dieu répond en son temps. Dieu répond en son temps. Et j'aimerais partager avec vous une expérience assez banale que j'ai vécue il y a quelques jours, parce que je devais envoyer un colis en région parisienne. Et puis, j'ai donc fait comme tout un chacun, hein, j'ai été au bureau de poste, j'ai pris mon ticket qui m'annonçait que j'allais passer dans 5 minutes. J'ai attendu mes 5 minutes. Comme on est en Suisse, les 5 minutes étaient vraiment précises. Donc j'arrive au guichet, donc je donne les informations donc, à la personne qui était au guichet. L'adresse était précisée sur le colis. Et la guichetière m'annonce donc que le colis arrivera en région parisienne d'ici 3 jours. 3 jours parce que j'ai payé pour que ça arrive en 3 jours. Donc je rentre chez moi, persuadé, avec la foi, que ce colis arrivera dans 3 jours. Donc pendant les 3 jours, je ne me suis pas inquiété. Et au bout du 4e jour, donc, j'appelle le destinataire. Je lui dis, est-ce que tu as reçu le colis ? Tu devrais l'avoir reçu depuis hier, parce qu'on m'a dit 3 jours. Il me dit, non, je ne l'ai pas reçu. Premier réflexe, donc, je retourne au bureau de poste. Je lui dis, c'est pas normal, le colis devait arriver au bout de 3 jours, vous ne me l'avez pas envoyé. Et là, la guichetière me répond, désolé, nous vous présentons nos excuses, mais il y a eu un petit retard dans l'acheminement, etc., etc. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que des fois, mes frères et sœurs, et moi le premier d'ailleurs, nous avons tendance avoir la même logique au niveau spirituel. Je viens, je dépose mes fardeaux aux pieds de Jésus, ce qui est très bien, et puis je me dis, ben, Dieu, il doit me répondre quand même au bout de 3 jours. Il doit me répondre au bout d'une semaine. Et puis s'il ne me répond pas, mais Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas ? Non, mes frères et sœurs, Dieu répond en son temps. Dieu répond en son temps. Alors, si vous êtes bien réveillé ce soir, vous allez me dire, ben, mon frère, tu nous dis que Dieu répond en son temps, mais est-ce qu'il n'est pas écrit là dans Luc chapitre 18, verset 8, donc un peu vers la fin de notre parabole, n'est-il pas écrit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Promptement, ça veut dire vite. Promptement, ça veut dire que je prie ce soir et demain matin, la chose, le problème est résolu. Là également, je vais aller un peu plus loin avec vous dans la racine de ce mot qui a été traduit par promptement. Promptement ici vient de la racine grecque, c'est taous. Taous, c'est un mot grec, c'est ce même mot grec qui a été utilisé, qui est utilisé dans Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7 utilise le même mot tahous, pour dire promptement, où l'ange va dire à Jean, je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. On l'attend toujours. Je viens bientôt. Pourquoi ? C'est parce que le tahous qui est utilisé ici dans Luc chapitre 18, verset 8, et qui a été traduit par promptement, veut dire simplement, subitement, mais de manière certaine. Il n'y a pas vraiment un temps déterminé. Il n'y a pas, mais on sait que ça va arriver, et ce, de manière certaine. Alors, je me suis amusé avec cette nouvelle définition à un peu reformuler ce que ça donnerait ce verset. Je vous le dis, il leur fera justice de manière certaine au moment où ils ne s'y attendront pas. Voilà ce que ça veut dire promptement. Ça ne veut pas dire que je prie ce soir et demain matin, l'affaire est résolue. Ça veut dire que je prie ce soir, mais que je suis certain que Dieu va intervenir. Il le fera subitement, mais il le fera certainement. Il le fera en son temps. Il le fera de manière certaine. Alors, si vous êtes encore bien réveillé, vous allez me dire, « Oui, mais ça fait quand même 10 ans que je prie pour être guéri. Ça fait 15 ans que je prie pour être guéri. Ça fait 20 ans que je prie pour être guéri. » Et d'ailleurs, le frère, la sœur qui sont assis à côté de moi, ils ont prié pour la même maladie que moi. Et au bout de 2 semaines, un missionnaire est venu dans l'église. Ils ont prié pour lui, ils ont prié pour elle. Elle a été guérie au bout de 2 semaines. Et moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je prie pour la même chose et rien ne se passe. Et j'aimerais vous éclairer là-dessus également, mes frères et sœurs, parce que, vous savez, on vit à une époque où il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de personnes qui prêchent des choses qui ne sont pas bibliques, notamment que des chrétiens n'ont pas le droit d'être malades, etc., etc. J'aimerais juste vous rappeler que, oui, Dieu répond. Oui, Dieu répond en son temps. Mais quel est le temps de Dieu, finalement ? Quel est le temps de Dieu ? Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu est éternel. Et nous, il nous faut... Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter cela. J'ai eu beaucoup de mal, je l'avoue, à accepter que des fois, que nous n'ayons pas toutes les réponses. Il faut des fois accepter que nous n'ayons pas toutes les réponses à nos tribulations. Mais nous ne devons pas limiter le temps de Dieu à notre temps, qui est qu'un temps terrestre. Et lorsque nous saisissons cette vérité spirituelle, nous comprenons que notre destinée n'est pas ici-bas. Notre destinée est éternelle. Et ce que je dis là est biblique. Regardez ce que dit Hébreux 11. Hébreux 11, pour ceux qui connaissent ce chapitre, Hébreux 11 reprend les héros de la foi, quelques héros de la foi. Et dans Hébreux 11, il est fait mention d'Abel, d'Enoch, d'Abraham et de Sarah. Et puis au verset 13 de Hébreux 11, la Bible dit, en parlant de ces héros de la foi, « C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans quoi ?» Sans avoir obtenu les choses promises. Mais, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre destinée n'est pas une destinée terrestre. Il y a des réponses que nous aurons ici-bas, et il y a des réponses que nous n'aurons pas ici-bas, que nous aurons au-delà. Les épreuves que nous vivons sont parfois très difficile sur le plan humain. Le temps de délivrance peut nous paraître long, mais soyez certains que la récompense finale sera grande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire, Jean-Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été tenté, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Oui, mes frères et sœurs, face à la souffrance immédiate, ne perdons pas de vue notre destinée céleste et éternelle. Et d'ailleurs, une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris cette clé spirituelle-là, le verset 8, dernier verset de la parabole, nous paraît beaucoup plus clair. C'est pour cela que Jésus conclut en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Comprenez mieux pourquoi maintenant Jésus dit cela. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à nos côtés. Si Dieu est à nos côtés, il est là, il va nous guider, il va nous réconforter dans nos épreuves. Même si nous ne comprenons pas tout, mais nous lui remettons tout et nous savons qu'il a le contrôle de toutes choses. Oui, dans les épreuves, mes frères et sœurs, que nous puissions retenir ces trois clés. Dieu veut nous voir grandir dans la foi et nous rendre plus forts spirituellement. Il nous fait passer par des tests, comme nous l'avons vu. Des fois, nous sommes persécutés. Les persécuteurs sont là. Il ne leur arrive rien. Nous ne comprenons pas. Mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a une perspective spirituelle. Parce qu'il aime également nos persécuteurs. Il aime nos ennemis. Et surtout, retenons ce soir que Dieu répond en son temps et que son temps est éternel. Mes frères et sœurs, si l'exaucement n'est pas immédiat, gardons une ferme assurance, une confiance totale dans les promesses de Dieu. Au milieu de nos combats, au milieu de nos épreuves, rappelons-nous qu'il est tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Je ne sais pas ce soir si tu as une réponse qui tarde. Ne perds pas de vue la perspective éternelle de ta vie, la perspective spirituelle. Moi, j'ai été très frappé une semaine, 10 jours avant la mort de notre sœur Rosemary, qui est décédée il y a quelques semaines, maintenant plus d'un mois maintenant. Avec ma femme Madge, nous avons été priés avec elle. J'ai été très frappé par la paix qui habitait cette femme, qui était atteinte quand même d'une maladie très grave, incurable, qui savait qu'elle allait mourir. Mais elle nous a parlé avec une telle paix, parce qu'elle avait vu qu'il y avait une perspective, une autre perspective. Elle avait compris qu'elle était qu'en transit sur cette terre, et qu'au-delà, qu'elle recevrait la récompense. Je pense que cette sœur Rosemary, et je la prends pour exemple, parce que elle m'a beaucoup frappé lorsque j'ai été pris avec elle, avec mon épouse. Elle a vraiment compris ce que l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 4 nous dit. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Voilà notre espérance. Notre espérance n'est pas ici-bas. Gloire à Dieu si Dieu répond à nos prières ici-bas. Mais des fois, nous ne comprenons pas tout. Et Dieu veut que nous ayons cette perspective éternelle. Mais en attendant ce jour merveilleux, ce jour où, comme la Bible le dit, qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, il nous faut persévérer au milieu de nos épreuves. Il nous faut mener le bon combat de la foi. Amen.